Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. L'instant M, ça passe vite et ça en dit long. Il est 9h40 sur France Inter.
Vous êtes en direct, allez-y.
Leur enquête sur le Crédit Mutuel a fait l'objet d'une censure à l'ancienne. Un milliardaire, Vincent Bolloré, rachète une télévision Canal+. La diffusion du film entre en conflit direct avec ses intérêts. Poubelle, erreur. Le reportage est récupéré par France 3. Scandale et audience massive, là où cela aurait dû rester plus ou moins confidentiel. Après cet épisode, l'auteur et le producteur de la dite enquête en ont entamé une autre, très vaste. Mettre à jour les réseaux d'influence et les stratégies de conquête de l'homme d'affaires breton, puissamment implanté en Afrique, magnat des médias en France. Une histoire parfois très technique, parfois très cinématographique, faite de curés tradis, de poulets tuitui, de banquiers mentors, de présidents de la République et de grands flics.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Jean-Pierre Canet, Nicolas Vescovacci.
Salut, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher paraît aujourd'hui même, je crois, aujourd'hui même, chez JC Lattès. Attention, émission Frustration, un livre fouillé, épais, dense et très riche. Tout ça ne rentrera pas dans les 20 minutes de radio qui suivent, mais c'est pas grave, vous irez l'acheter en librairie. Un petit mot d'abord d'actualité des médias. Bon, c'est le hasard, hein, mais c'est encore Canal+. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dite la SACD, saisit le CSA, ainsi que les responsables des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, tout en écrivant à la ministre de la Culture pour lui demander, je cite, de faire cesser des pratiques que l'on n'a jamais vues dans l'audiovisuel. L'histoire est la suivante. Voyant son chiffre d'affaires baisser, Canal+ a voulu baisser les droits d'auteur que ces chaînes doivent payer, rémunérer, à chaque diffusion d'une fiction ou d'un documentaire. Documentaires à ceux qui les ont écrits et tournés. La SACD a déjà poursuivi Canal+ en justice l'année dernière, mais le groupe avait préféré régler les droits demandés avant jugement. La paix armée n'aura pas duré, le conflit est reparti. C'est à lire dans les Échos ce matin les pistes proposées par France Télévisions pour faire travailler ensemble les chaînes et radios publiques, notamment la création d'un nouveau rendez-vous d'information politique régionale diffusé à la fois sur France Bleu c'est chez nous, c'est Radio France, et les réseaux régionaux de France 3. Il prendrait la forme d'un débat autour d'une question d'intérêt régional. L'idée d'une matinale par ailleurs commune se poursuit, une émission hybride radio-TV produite par France Bleu, pilotée par France Bleu, on va dire, sur la tranche du 7-9 avec des news et des services de proximité. Par ailleurs, voilà, un premier numéro pourrait avoir lieu à Paris, selon les Échos. Autre possibilité, la diffusion simultanée d'une émission en matinée, donc un peu plus tard, après le 7-9, pilotée cette fois par France 3, portant sur les questions de vie quotidienne. Enfin, dans la musique aussi, des opérations découvertes des jeunes talents de France Bleu pourraient être relayées par France 3. Ce ne sont que des documents de réflexion. Voilà, et bienvenue dans une radio qui a les yeux et les oreilles entièrement tournés vers le CSA de l'autre côté de la chaîne, de la scène aujourd'hui, de la chaîne.
C'est pas très loin.
Non, c'est pas très loin, voilà.
On ne voit pas de quoi vous parlez du tout.
Bah si, où se décide ce matin, ou peut-être cet après-midi, enfin en tout cas dans la journée, après le vote de 6 conseillers de leur président, le sort de notre PDG. Bref, c'est pas le sujet du jour, c'est le vôtre, Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. Je reçois donc Jean-Pierre Canet, vous étiez le producteur, enfin vous travaillez à l'époque dans la
même
maison.
Même le rédacteur en chef.
Rédacteur en chef, dans la maison de production qui avait produit cette fameuse enquête qui a fait tant de bruit sur le Crédit Mutuel CIC, enquête sur les circuits d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. À vos côtés, Nicolas Vescovacci, co-auteur de cette enquête avec Geoffrey Livolzi. Je l'ai rappelé, elle a été finalement diffusée sur France 3 dans le magazine Pièce à conviction.
Banque Page, bonjour.
Allô, Albert Camus, l'étranger à l'appareil.
Et à qui l'étranger désire-t-il parler ?
À son gestionnaire de compte.
Alors un instant, ne quittez pas.
Si le banquier répond à Albert Camus, c'est donc que notre répertoire dissimule de véritables clients.
Allô ? Allô, Albert Camus, l'étranger à l'appareil.
Bonjour.
Bonjour, je serai de passage à Genève et je voulais savoir si vous pouviez me préparer 50 000 euros de retrait en espèces.
Alors ça, je pense que c'est pas possible.
Pourquoi ?
Parce que vous avez pas assez.
Voilà, c'était pour...
Il y a des pauvres à Genève aussi.
Il y a des pauvres à Genève. C'était pour mémoire. Jean-Pierre Canet, Nicolas Vescovacci, vous avez creusé. Le Crédit Mutuel CIC possédait en fait 3% de Canal+, dont Bolloré avait besoin pour le rachat de la chaîne. Et en plus, il se trouve que c'était l'une des deux banques préposées à la supervision de cette vaste opération, à savoir la montée en puissance de Bolloré dans le groupe Vivendi. Vous démarrez cette enquête, car ça vous a donné envie de continuer. Et puis, un huissier sonne à votre domicile, Nicolas Vescovacci. Il vous est demandé, par la présente sommation, d'avoir à cesser tout envoi de mails, de SMS, tout appel téléphonique, tant vis-à-vis du président du conseil de surveillance de Vivendi qu'au directoire de celle-ci, et également à tous les cadres et salariés de Vivendi et de Canal+. Vous aviez donc fait parvenir 22 mails pour avoir des réponses à vos questions. Et c'est un huissier qui vous demande de cesser.
22 mails, exactement 14 SMS, dont 3 sur le numéro direct de Vincent Bolloré, en l'invitant à participer à cet ouvrage. Et effectivement, la seule réponse que j'ai eue de Vincent Bolloré, c'est cet huissier à ma porte, le 5 janvier 2017 au matin, à 11h30. Un gentil monsieur avec un casque sous le bras qui me dit « Écoutez, j'ai une lettre de sommation. » C'est comme ça que cela s'appelle. Une lettre de sommation signée par Arnaud de Puyfontaine, le patron de Vivendi, du directoire, qui me demande 700 000 euros de dommages et intérêts parce que j'aurais harcelé les cadres de Vivendi.
Alors, ce ne sera pas la seule et unique visite de l'huissier.
Non,
il y en aura une deuxième au cours de l'enquête.
Oui. Le lendemain, tout simplement le lendemain, avec une assignation devant le tribunal de Paris pour justement répondre de ce harcèlement dont j'aurais été coupable.
Donc, vous auriez été coupable, puisque ça peut aussi s'appeler de l'autre côté, hein, une forme de harcèlement judiciaire.
Il faut préciser que tout journaliste qui mène une enquête a la nécessité de faire le contradictoire, c'est-à-dire d'aller solliciter les gens qui sont dans cette enquête pour lui demander soit des comptes, soit de répondre à des questions précises. C'est notre métier, c'est même la base de notre métier. Donc, je n'ai fait que mon métier en envoyant des questions et en sollicitant Vincent Bolloré et ses proches.
Jean-Pierre Canet, vous qui êtes homme de télévision, dans ce livre, vous prenez le soin et l'un et l'autre de mettre en scène aussi votre travail de journaliste, comme vous l'avez fait petit à petit naître dans une grammaire télévisuelle et dans un langage télévisuel. Je rappelle que vous êtes à l'origine, par exemple, de Cache Investigation. Bref, de toute une nouvelle...
Pas tout seul.
Une nouvelle manière de mettre en scène l'investigation que vous poursuivez, en fait, dans ce livre.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Il y a le risque, quand on se met en scène, d'être un peu, de focaliser l'objet sur nous et puis pas sur le sujet qu'on est en train de traiter. Mais en l'occurrence, il est important quand même que les gens comprennent un peu les coulisses du travail. Pourquoi ? Parce que ce travail-là, cette enquête sur Vincent Bolloré, elle a duré plus de 2 ans. Nous, effectivement, on a démarré là-dessus suite à cette censure du Crédit Mutuel. On n'avait pas prévu d'enquêter sur Vincent Bolloré à la base. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, on avait affaire à une toute-puissance qui, comme beaucoup de patrons du CAC 40, souhaitaient investir dans les médias, avoir ce pouvoir-là. Ça implique des responsabilités. On a voulu montrer aux gens, alors il n'y a pas énormément de coulisses dans le bouquin, mais il y en a quand même un petit peu. On a voulu montrer aux gens que forcer la porte quand on ne nous répond pas, parce que c'est important, comme vient de le dire Nicolas Vescovacci, qu'on réponde à nos questions.
Mais il y a aussi la façon dont vous traitez vos sources, le fait qu'elles aient vécu exactement la même scène et qu'elles racontent des histoires différentes, la façon dont vous étalez vos pièces à conviction finalement et dont vous les distillez, vous les distribuez, vous les ressortez.
C'est vrai qu'il y a un petit langage oral dans le livre. Peut-être que c'est notre déformation professionnelle de nos documentaires, de Cache Investigation, d'Envoyé Spécial, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important pour les gens, c'est qu'on montre les coulisses lorsqu'elles ont du sens, lorsqu'elles montrent la difficulté d'accès à une source, lorsqu'elles montrent la peur. Ce qui domine dans ce bouquin, c'est la peur. Nos interlocuteurs, les sources qui ont voulu, qui ont témoigné à la fois sur le portrait et sur les méthodes de Vincent Bolloré, elles ont peur. Et ça, c'est pas si courant quand même. C'est en ça que les coulisses sont importantes. Il y a vraiment une forme, c'est pas moi qui emploie le mot, lui-même, Vincent Bolloré, emploie le mot de terreur. Un peu de terreur ne fait pas de mal quand on dirige un groupe de cette puissance-là. La peur a dominé 80% des sources.
Et puis il y a, je le disais ce matin, Nicolas Demorand, il y a des scènes assez cinématographiques, dignes d'un vieil Audiard ou d'un bon House of Cards. Vous racontez par exemple la prise de la SCAC, qui a été le premier gros coup finalement de
la SCAC,
on dit, voilà, de Vincent Bolloré, où il va d'abord couper la tête de celui-là même qui lui a permis de mettre la main sur cette boîte. Il y a des scènes incroyables lors du conseil d'administration avec un coup d'éclat du vieux Francis Bouygues qui était à l'époque au conseil d'administration. Le décapité dont vous parlez au début repasse par son bureau, ne serait-ce que pour aller chercher sa serviette, et découvre assis sur sa chaise le grand Antoine Berman, qui
le
est
grand banquier.
Voilà, le baron, le parrain du capitalisme français, qui est assis dans son fauteuil et qui le regarde avec un demi-sourire. Et là, il comprend qui a tiré les ficelles de toute cette histoire. C'était important aussi de mettre ça en scène.
Oui, mais d'ailleurs, il y a quelques séries sur Canal+ en ce moment qui sont très rattachées à ce genre de scène. Baron Noir, même le Bureau des légendes. Alors, évidemment, il faut faire attention aussi avec nos ponts fictionnels, parce que là, c'est la réalité, c'est la vraie vie. Mais c'est vrai que souvent, on a été un petit peu, je dirais pas choqué, mais abasourdi de voir à quel point parfois ces scènes fictionnelles se retrouvent dans la vraie vie. Je pense à une scène finale du livre que je vais laisser Nicolas la décrire, où c'est une sorte de barbecue au mois de juin, hein, Nicolas.
Oui, alors
allez-y, parce que je l'ai relevé, elle pose énormément de questions.
Alors, c'est les trois dernières pages du livre. Il s'agit d'un barbecue à la brochette de poisson, au vin blanc et au vin rouge, parfois au cigare et au champagne, dans lequel sont invités en fait tous les grands flics de France.
C'est ça.
Ils se retrouvent tous sur la terrasse de la Tour Bolloré au mois de juin 2016 et rencontrent Arnaud Dupuis-Fontaine, qui est le patron du directoire de Vivendi. C'est lui la puissance invitante, et le seul qui n'est pas là, le seul qui marque son absence, c'est Vincent Bolloré, mais il est forcément là. Il est dans toutes les têtes.
Alors, c'est quand même quelque chose qui revient, Nicolas Vescovici, puisque vous pénétrez dans tous les réseaux d'influence africains. Hein, c'est la toute puissance, c'est le trésor de guerre, ces réseaux d'influence africains du groupe Bolloré. Et là, pour le coup, les anciens patrons de l'antiterro, du gang, du raid, ils sont tous là.
Y compris Sophie Hatt, qui est à l'époque celle qui s'occupe de la sécurité du président de la République, François Hollande.
C'est cela. Donc, il y a quelque chose qui se noue, là, entre le monde de l'argent et le monde du renseignement et le monde de la police et de la justice.
Il y a un phénomène à la fois d'attraction et de porosité dans tous ces milieux. Alors, c'est pas moche d'avoir des réseaux. C'est pas moche de les entretenir. Mais quand cette porosité débouche sur des conflits d'intérêts potentiels, là, ça pose problème et ça nous pose problème en tant que simples citoyens.
Alors, vous refaites l'histoire de Vincent Bolloré, l'homme qui monte, le winner des 80s, reçu chez Thierry Ardisson. Ça s'appelait Bain de minuit, à l'époque, son émission.
Quand on lit dans le journal Vincent Bolloré, le matin, il va à son bureau à 5h, puis après, il va prendre à 8h le petit déjeuner avec ses enfants, et puis tu vas à la messe. Enfin, comme ça, plein de qualités, t'es un héros moderne, quoi. Alors, la seule question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as des défauts ?
Ah oui, beaucoup. D'abord, les Bretons sont tous têtus, donc c'est le premier des défauts.
C'est une qualité dans les affaires.
Mais on peut en trouver d'autres, il suffit d'aller demander aux personnes qui travaillent avec moi, il y en a beaucoup.
Ouais.
Deuxième défaut, sûrement trop gentil.
Ouais.
On dirait que c'est pas un défaut, c'est ce que De Gaulle avait dit de Pompidou, mais non, c'est vrai, un peu gentil, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup de ce que font les gens. Et puis, troisième défaut, je crois à un certain nombre de choses et j'essaie de les appliquer coûte que coûte, même quand l'histoire me donne un peu tort.
On est à l'orée des années 90 et vous pénétrez ce monde des petits arrangements et des grandes privatisations, ce monde des affaires qui a laissé quand même beaucoup de traces et dont on n'a manifestement pas encore exhumé tous les dossiers. Vous refaites vivre par exemple le raid de Vincent Bolloré sur TF1 qui appartient à la famille
Bouygues.
Oui, la tentative depuis 1987. Et vous racontez comment justement dans cette géographie des influences, Antoine Bernheim, ce grand baron du capitalisme français, a d'un côté formé et initié Nicolas Sarkozy aux affaires et d'un côté aidé Vincent Bolloré à façonner son empire. Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré, ils se retrouvent chacun l'un et l'autre d'un côté opposé de la barrière dans cette affaire TF1.
Ils sont de la même génération, ils sont nés dans les années 50. Et vraiment Antoine Bernheim, qui malheureusement est décédé en 2012, il n'a pas pu nous parler, on le regrette, a formé les deux hommes. Il s'en est servi également pour ses propres affaires, mais il les a vraiment intronisés dans le milieu des affaires et dans la politique. C'est Antoine Bernheim qui va permettre à Bolloré de devenir ce qu'il est aujourd'hui, de prendre la main sur le groupe Rivaux, de prendre la SCAC, qui est sa première grande prise industrielle, et de monter ce groupe, cette multinationale que nous connaissons aujourd'hui. Et pour Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, en 95, il n'est plus rien. Il a choisi Balladur, Chirac est élu, et il se replonge dans les affaires. Et qui lui fait la courte échelle ? Antoine Bernheim, qui va lui donner tout un tas de clients très importants
dans le milieu des affaires. Et Bolloré et Sarkozy vont trahir leur mentor, et vous citez Bernheim qui dit « La reconnaissance est la seule maladie du chien non transmissible à l'homme ». Mais donc vous posez les pions de cette géographie d'influence, et vous commencez à initier ce long travail que vous avez fait des relations d'influence politique de Bolloré, à droite comme à gauche. Avec Sarkozy, ça n'est pas une surprise, ça a été beaucoup, beaucoup commenté. Avec la gauche, vous dressez Jean-Pierre Canet un bilan que finalement personne n'a fait. La gauche a été plutôt un allié de poids pour Vincent Bolloré ces dernières années.
Oui, ben, notamment dans les derniers dossiers africains. Enfin, on parle notamment du port de Kribi, qui a été une négociation
au Cameroun,
qui a fait l'objet de d'une forte négociation de la part de Vincent Bolloré pour obtenir cette concession. Et nous révélons dans le livre que François Hollande a eu un entretien avec le président Biya à ce propos, chose qui était contestée jusqu'à présent par Vincent Bolloré. Et on voit là toutes les coulisses de la diplomatie française. Alors attention, hein, c'est pas forcément mal qu'un président aide une entreprise française. Non. Simplement, il peut y avoir des limites aussi. Il peut y avoir des limites notamment lorsque les concurrentes ne sont pas impliquées dans ces négociations. Ça, c'est clairement, sont les derniers faits marquants de la relation de la gauche, de la présidence en place et de Vincent Bolloré. Mais il y a une longue histoire. Elle commence avec Léon Blum, Nicolas.
Il y a une longue histoire, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est finalement l'histoire qu'on a vu se dérouler ces dernières années, c'est-à-dire la prise de pouvoir sur Vivendi et finalement la mise à bas de Canal+, telle qu'on l'a vu, la grande grève à iTélé où une chaîne d'information aura été détruite, les faits de censure, la suppression des guignols, etc., etc. Tout ce qu'on a vu, finalement, vous décrivez très bien l'inertie totale du gouvernement, l'inertie du pouvoir. Vous décrivez un François Hollande qui, en privé, est extrêmement critique et méfiant vis-à-vis de Vincent Bolloré, mais absolument, qui n'aura pas levé le petit doigt et qui, en fait, l'aura plutôt aidé.
Il a fallu faire beaucoup de travail. Enfin, je vous rappelle qu'on est membre d'un collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit. Suite à l'affaire du Crédit Mutuel, suite à la reprise en main par Vincent Bolloré de Canal+, dans la manière dont qu'on a tous constaté, nous avons, nous, rencontré à plusieurs reprises la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin. L'évidence de cette censure n'était pas là, dans la tête de la ministre. Il a fallu qu'on la convainque, alors que les preuves étaient toutes sur la table.
Et nous révélons ce qu'elle nous a dit lors d'un entretien que nous avons eu à son bureau. Elle nous dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ce n'est pas mon rôle d'intervenir. » Alors qu'à ce moment-là, quand nous étions dans son bureau, elle avait la preuve que Vincent Bolloré était intervenu pour censurer ce documentaire.
Je vous rappelle que nous, on n'a jamais été attaqués sur cette question. On a toutes les preuves de la censure. Il y a même eu d'ailleurs un certain nombre de dirigeants, Vincent Bolloré lui-même, mais surtout Maxime Saada, devant la représentation nationale, qui ont menti sur cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, si ça se passe aux États-Unis, ça s'appelle parjure. Il y a un moment donné, en fait, on est dans la période des fake news. Très bien. En fait, on est surtout dans une période où les informations vérifiées valent les informations non vérifiées ou les théories du complot. On est là-dedans. Et du coup, on est dans une période où on peut tout se permettre. Il se trouve qu'une loi a été rapidement goupillée sur l'indépendance des médias.
Oui, quand même. C'est la seule chose qui restera.
Il faut le dire. Ouais, il faut le saluer.
Voilà. Simplement. Au bilan de la gauche au pouvoir. La loi portée par Patrick Bloch.
Absolument.
Alors, Patrick Bloch m'a dit dans son bureau, s'il n'y avait pas eu votre documentaire, il n'y aurait pas eu de loi sur les médias, la liberté de la presse.
Mais prenons un exemple concret. Et bien sûr que cette loi, c'est un progrès, bien entendu. Simplement. L'un des aspects de cette loi, c'est d'imposer aux chaînes de télévision, privées notamment, une charte éthique. Il se trouve que Canal+ avait une charte il y a bien longtemps, puis ils l'ont laissée tomber. Cette charte éthique, elle est censée encadrer le travail journalistique. Sauf que si vous ne dites pas d'où vous partez, c'est-à-dire quelle est la référence. La référence, ça peut être par exemple la charte de Munich de 1971, que tous les journalistes connaissent, que les citoyens ne la connaissent peut-être pas, mais en tout cas, elle est très protectrice en matière de déontologie. Elle raconte ce que nous sommes. Si vous ne dites pas d'où vous partez, vous écrivez une charte éthique qui, du coup, abaisse le niveau du journalisme. Un exemple tout bête, c'est la charte de Canal+, signée en décembre dernier. Il y a par exemple cette phrase « Tout journaliste du groupe Canal a le droit de refuser de divulguer ses sources ». Tout journaliste du groupe Canal a le droit de refuser de divulguer ses sources. En fait, tout journaliste ne doit pas divulguer ses sources.
Il doit protéger ses sources.
Et il y a énormément de choses comme ça.
Alors moi je vous renvoie à ce livre puisque vous faites un long inventaire de tous les sujets qui ont été, on va dire, écartés de toutes les antennes, de toute l'histoire de la possession de Vincent Bolloré dans la télévision. Idem pour les journaux gratuits. C'est toute cette relation entre finalement l'outil d'influence que deviendra un média aux mains d'un milliardaire que vous creusez, avec aussi également un décryptage politique et idéologique qui a été rarement fait, on va dire, de la presse aux mains de Vincent Bolloré. Je vous renvoie donc à Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher, mais qui est sortie quand même. Merci beaucoup à Nicolas Viscovati et Jean-Pierre Canet.
Merci.
C'est la fin de l'émission. Le livre est sorti chez J.C. Lattès. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers. Ce matin, comment enseigner la Shoah et transmettre sa mémoire à l'école? Nous recevons Raphaël Esrail, ancien déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau et qui rencontre sans cesse élèves et enseignants.
Et ben, ce sera tout à l'heure, juste après les infos.